Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, blocage, grève, manif, so French. Des trains qui ne circulent pas faute de conducteurs, des avions qui ne volent pas faute de pilotes, des automobiles qui n'avancent plus par manque de carburant. Voilà à quoi pourrait ressembler la semaine qui débute en France. Aux contestations qui durent contre la loi travail, bien davantage sans doute que ce qu'imaginaient ses défenseurs, s'ajoutent désormais des mots d'ordre plus catégoriels, comme ce fut le cas par le passé, certes, à ceci près que cette fin de mois de mai s'inscrit dans un mouvement de profonde remise en cause de la représentation politique, qui illustre notamment le toujours actif mouvement Nuit Debout. Alors cela suffit-il à en faire un moment totalement singulier ? Eh bien, pour essayer de comprendre ce qui nous arrive, nous avons choisi ce soir de prendre un peu de recul, non pas dans le temps, puisque la contestation est en cours, mais une distance kilométrique en nous appuyant sur le regard de nos consoeurs et confrères de la presse étrangère, laquelle, nous dit-on, n'est pas tendre avec ces maudits Français. Alors blocage, grève, manif, so French, c'est notre sujet du jour. Et ils seront cinq ce soir pour en discuter, cinq correspondants à Paris de la presse étrangère, à commencer par vous, Eva Morletto, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante de l'hebdomadaire italien Familia Cristiana. Pour discuter avec vous, André Linetto, bonsoir.
Bonsoir.
Correspondant pour le journal brésilien Estado de São Paulo. Vous êtes par ailleurs, m'a-t-on dit, chercheur en sociologie de la communication. Sylvain Desjardins, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant d'ICI Radio-Canada Première, radio de service public comme les Radio France. Emre Demir, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire franco-turc Zaman France. Et puis notre cinquième invité est en duplex des studios de France Bleu à Tours. Il s'agit de Richard Verly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant du quotidien suisse Le Temps. Alors, puisque vous êtes nombreux ce soir, je vais vous demander de faire quelques petits efforts de concision, même si on a quand même un certain temps jusqu'à 19h pour discuter, mais peut-être déjà à faire un premier tour de table et demander aux aux autres, comment est-ce que, en quelques mots, en une ou deux phrases, vous résumeriez la situation en France à vos lecteurs ou à vos auditeurs? Eva Morletto.
Alors, comment résoudre cette situation en France? Alors, la France vit un moment que l'Italie a déjà vécu il y a un moment, c'est-à-dire cette manque d'amour, cette manque de confiance envers la politique. C'est-à-dire, c'est la première fois avec le mouvement, notamment Nuit Debout, où on affiche ce mouvement qui, en fait, n'a pas de couleur. Et notamment, les politiques qui se sont présentées sur la place de la République l'ont fait très discrètement. Pourquoi? Je compare ce mouvement à Occupy Wall Street, aux Indignados en Espagne et en Italie, à ce mouvement Notav, dont on pourrait parler un peu plus diffusement, qui a été à l'origine du mouvement 5 étoiles. C'est-à-dire ce sorte de détachement, ce manque de confiance totale envers la politique traditionnelle qui fait que le citoyen ne se sent plus représenté ni de la gauche ni de la droite, donc se sent trahi.
Donc c'est intéressant, Eva Morletto, parce que finalement, quand je vous demande de me résumer la situation en française, plutôt que d'évoquer les grèves et les manifestations, Vous parlez du mouvement Nuit Debout. Sylvain Desjardins.
Moi, j'aurais tendance à séparer assez clairement les deux. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, dans la couverture qu'ont fait les correspondants ici de Radio-Canada, ou même si je compare avec les journaux qui sont représentés du Canada ici à Paris, on fait une sévère distinction entre les deux, au sens où ces mouvements de grève sont liés à une loi précise, la loi travail que les gens refusent. Et pour nous, ce qui est fondamental à retenir, et qui est peut-être, si vous voulez, l'espèce d'emblème de toute cette histoire, c'est le si faible taux de syndicalisation en France qui permet tout de même de paralyser, ou en tout cas de menacer de paralyser complètement ce pays. Ça nous semble un pouvoir démesuré, et c'est de cette manière jusqu'à maintenant qu'on l'a traité.
Alors j'entends du désamour du côté de l'Italie, de la paralysie du côté du Canada, du côté de la Turquie, Emre Demir. Enfin, je précise évidemment que vous ne représentez pas non plus, vous n'êtes pas les représentants officiels de vos pays.
Hein, bien sûr.
Mais je partage en fait cet avis sur le Nuit Debout et les grèves sont deux phénomènes différents. Mais ils ont quand même lié, parce qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol généralisé. Et ce n'est pas facile aujourd'hui d'être jeune en France. Il y a une dette publique élevée et il y a un marché qui est très très saturé. Il y a le chômage, le logement cher, etc. Et donc, il y a aussi ce rejet de... Il y a un certain sentiment anti-élitiste qui s'émerge de plus en plus. Et on a l'impression que les élites, les fabriques de l'élite à la française, ça ne marche plus. Et on voit toujours, ironiquement par exemple, les mêmes les hommes politiques, la même bureaucratie, les anarches, etc., qui proposent des mêmes solutions à des questions, à des problèmes différents. Les enjeux sont très importants pour la France, le chômage, la sécurité, etc. Mais on dirige vers une élection présidentielle, par exemple, il y a plus d'un an. Et donc, on a toujours le même candidat qu'on a voté il y a 5 ans, en 2012. On aura Hollande, peut-être Sarkozy, Mélenchon, Le Pen, etc. Donc, il y a ce sentiment de rejet global. Et sur les grèves, je veux dire brièvement qu'il y a en fait une certaine lutte de pouvoir entre la gauche. C'est une lutte de pouvoir entre la gauche, mais aussi entre le syndicat, CGT surtout, et le gouvernement.
Et je poursuis mon premier tour de table avec vous, André Ineto.
Le titre de l'émission, So French, c'est exactement ça, en fait. Nous parlons du stéréotype de la France. Et c'est le stéréotype de la France au Brésil, par exemple. Et je suis capable de dire qu'aux États-Unis, on pense pareil. Mmh. C'est la France, la vieille France qui bouge à ce moment. La France qui résiste, qui essaye d'empêcher en quelque sorte de réformes qu'on peut, se dire que ce sont de réformes nécessaires pour les pays. Donc, même si une partie, par exemple, de l'opinion publique au Brésil apprécie beaucoup les mouvements des syndicats, Nuit Debout, etc., il y a aussi un regard un peu critique à propos de cette capacité, ou plutôt de l'incapacité de la France de s'adapter au monde globalisé.
D'autant que ce qui s'est passé au Brésil avec le mouvement des sans-terres, avec les altermondialistes, ça peut être une source d'inspiration quand même pour les Français. Donc les Brésiliens ne nous renvoient pas aujourd'hui trop cet exercice d'admiration.
Je pense que c'est une admiration qui est toujours là. La France, c'est une source d'inspiration au Brésil, et notamment pour la gauche brésilienne, et depuis bien longtemps. À ce moment, c'est un moment de radicalisation politique au Brésil. Et il faut dire, la gauche observe, par exemple, le mouvement de Nuit Debout et observe le mouvement des syndicats avec une sympathie assez remarquable. Mais il faut dire que ça, c'est plus la plupart du pays. La plupart du pays aujourd'hui se concentre au centre, ou plutôt au centre-droite. Donc le regard change.
Alors Richard Verlin n'a pas encore parlé. Je rappelle, vous êtes correspondant du quotidien suisse Le Temps. Alors vous avez l'esprit de synthèse, hein, puisque pour qualifier la situation française, vous avez résumé ça dans un hashtag qu'on peut retrouver sur Twitter et qui s'appelle La France qui craque. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une série d'articles que vous allez consacrer à la France. Et le premier de ces articles, vous le débutez en disant ceci: La France nous inquiète.
Oui, la France nous inquiète parce que, d'abord, je crois que tous les pays et tous les médias qui sont représentés autour de cette table ont envie que la France aille de l'avant, ont envie que la France bouge, et donc on est tous quelque part désolés de voir cet énième blocage s'installer. En ce qui me concerne, je pense que c'est d'abord une crise politique. C'est-à-dire, on voit bien que la CGT, qui est le premier syndicat français, mais avec quand même une très faible représentativité, notamment dans le secteur privé, la CGT mène un combat politique. Et ce combat politique, elle le mène parce que le coup gouvernement actuel est présumé faible, et parce que sans doute le leadership de la CGT pense qu'il y a de fortes chances que le gouvernement recule. Donc on est vraiment dans une crise politique. Pour moi, on n'est pas dans une crise sociale majeure. La meilleure preuve, c'est que j'ai eu la chance ces derniers jours, après la publication de notre dossier sur la France qui craque, d'aller beaucoup en province. J'ai été tour à tour à Lyon, à Toulouse, et maintenant je suis à Tours. La province n'est pas sans dessus dessous. Donc le pays n'est pas, je dirais, à feu et à sang. Il y a véritablement un conflit politique au sommet entre deux partis de la gauche, une gauche qui voudrait réformer, celle du gouvernement, mais qu'on ne croit pas parce qu'elle n'est pas jugée très crédible, et une gauche radicale qui veut camper sur la situation actuelle.
Donc il y aurait une France qui refuse la réforme et va mordre les taux, et qui contribuerait à diffuser cette image d'un pays irréformable ?
C'est pas la question d'un pays irréformable, c'est que, en fait, l'impression qu'on a eue, en fait, l'Italie, si vous voyez, si on peut faire une comparaison, a vécu avec un peu d'avance exactement ce qui est en train de se passer maintenant.
C'est-à-dire une loi de travail.
Exactement. On a une loi de réforme du travail qui est assez similaire, notamment le Job Act de Renzi.
C'était l'an dernier, c'est ça?
Exactement, c'était déjà en 2014. Alors, qui ont été faits dans un moment politique complètement différent, hein, parce que c'était les 100 jours qui avaient été promis par Renzi pour faire les réformes. Donc, il y avait beaucoup d'attentes faite par les citoyens italiens, pas cette réforme qui est passée avec des protestes faibles des syndicats finalement, c'est-à-dire c'est passé, alors que la France a choisi vraiment les moments les plus néfastes pour faire cette réforme, c'est-à-dire un moment un peu de, comme j'ai dit à tout à l'heure, de détachement entre la politique et les électeurs. En fait, on a eu la sensation qu'on grignotait les droits des travailleurs un peu parallèlement entre France et Italie. On a commencé par exemple en Italie avec les lois, la réforme du travail qui avait été faite par le ministre Fornero, qui était ministre du gouvernement Monti. On a cet emblème, cette image de la ministre Fornero qui pleure en caméra parce que en évoquant les sacrifices que les Italiens auraient dû faire dans le sens de la flexibilité, donc de la précarité, parce que la flexibilité, ça devient un peu un euphémisme. Et parallèlement, il y a eu en France après ces accords en 2013 qui ont été définis par la CGT, qui est tant critiquée, qui ont été définis les accords de la honte. Parce qu'on allait déjà dans ce sens-là, c'est-à-dire les licenciements plus faciles, etc.
Mais est-ce que ça vouloir dire que les Italiens sont plus réformateurs finalement que les Français, ou bien qu'ils sont beaucoup plus dociles et que peut-être qu'en France, justement,
on
résiste un petit peu plus qu'ailleurs.
On était dociles parce que ça a été fait à un moment différent. Mais quand on voit aujourd'hui les résultats de cette réforme des Renzi, qui bien évidemment a apporté des premiers résultats en 2015, mais il faut les voir de près, ces résultats. C'est-à-dire, sur le papier, on a eu une croissance qui a augmenté légèrement, mais on avait affaire à une croissance qui était pratiquement inexistante avant. Et alors qu'aujourd'hui, on est en 2016 et on voit que cette loi dans le sens de la précarisation, c'est-à-dire ce CDI à garantie croissante que finalement n'est plus un CDI parce qu'il n'y a rien d'indéterminé lorsqu'on peut licencier les premières 3 années d'embauche un peu aisément ou quand on veut. Donc ce n'est plus un CDI. Ça a augmenté, mais on voit que le premier trimestre de 2016, ces emplois ont baissé. On est au niveau de 2014, c'est-à-dire on est à un niveau d'emploi vraiment qui ont baissé comme avant la réforme du travail, pour un tas de questions qu'on pourra développer plus tard.
Alors il y a ce parallèle qu'on peut faire avec ce qui se passe en Italie. C'est vrai qu'on a aussi réuni un panel ce soir de confrères qui ont connu, enfin de pays qui ont connu des situations sociales assez tendues. Ça a été le cas notamment au Canada, au Québec en particulier, Sylvain Desjardins, avec le printemps érable. Est-ce que là aussi on peut finalement, plutôt que d'imaginer que cette contestation aujourd'hui, c'est une contestation typiquement française, parce que c'est le mois de mai, parce que les Français sont peut-être râleurs, ne sont pas très, n'ont pas un goût immodéré pour la réforme. Et finalement, est-ce que ça ne s'inscrit pas dans quelque chose d'un peu plus global?
Je vais peut-être vous faire la peine un peu. J'aimerais vous dire oui, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, dans le cas du printemps érable, c'était un mouvement étudiant qui a été suivi par une grande partie de la population et qui a connu un succès démesuré par rapport à l'histoire des prêts et bourses, du fonctionnement, du financement étudiant. Mais qui a eu un rebondissement dans la société et qui a généré une sorte de une participation collective très, très forte, mais pour un enjeu, au fond, c'était effectivement, à ce moment-là, une sorte de réaction assez large contre la politique. On pourrait faire un parallèle avec la situation actuelle, où on avait une sorte de ras-le-bol par rapport au gouvernement, et ça a mobilisé toutes sortes d'énergies. Cela étant dit, c'est un enjeu qui n'a pas duré plus longtemps qu'il ne faut dans les mois, dans les années qui ont suivi. Et par ailleurs, pour tout ce qui est, si on veut faire le parallèle avec le monde du travail, il y a cette notion qui est maintenant tout à fait intégrée, je vous dirais, même s'il y a une pensée de gauche qui est assez développée, il y a une syndicalisation, un taux de syndicalisation qui frôle le 40% quand même au Canada, ce qui est 4 fois plus à peu près qu'en France. Il n'en demeure pas moins que cette histoire de ce qu'on appelle ici les CDI, ce qu'on appelle des emplois permanents chez nous, tous les jeunes tiennent pour acquis qu'ils n'auront pas droit à ça maintenant, que le nouveau monde du travail force une sorte de flexibilité. Je ne prends pas position en disant que je suis pour ou contre, mais c'est devenu une sorte de norme, de règle. On se dit, on ne va pas passer notre vie dans un emploi permanent. Et ça inclut les gens qui étaient dans ces manifestations auxquelles on faisait référence.
Mais André Netto, est-ce que ça n'est justement pas nécessaire qu'il y ait un peu de ce vieux monde qui serait représenté aujourd'hui par la France pour résister un petit peu à ce mouvement global de flexibilisation du marché du travail? Est-ce que la France peut aussi être vue comme un pays qui bouge, non pas qui stagne, mais qui bouge pour défendre un modèle social qui... je ne sais pas d'ailleurs si on peut encore parler de modèle pour l'extérieur.
Je suis tout à fait d'accord. Je pense que la gauche de la gauche, disons, représentée à ces moments par la CGT notamment, c'est une sorte de contre-pouvoir. Dans ce qui concerne le virage à droite que tous les gouvernements partout dans le monde font depuis 25 ans. Je pense que c'est tout à fait ça le cas en France à ces moments. Il y a une lutte fratricide entre une gauche radicale et une gauche social-démocrate, social-libérale, ça dépend un peu. Mais je pense que le moment actuel, il s'explique un peu par le mandat aussi de François Hollande. François Hollande a été élu en 2012. Il n'avait pas le mandat de la réforme. Il n'avait pas évoqué ces sujets lors de sa campagne présidentielle. Donc, il y a une gauche qui se sent trahie par le gouvernement, qui se sent trahie par son leader, en l'occurrence François Hollande. C'est naturel que cette gauche reviennent dans la rue pour protester, et notamment à une année de l'échéance du pouvoir, c'est-à-dire de l'élection. Il y a, à mon avis, une lutte de la gauche contre la gauche pour savoir qui sera la gauche qui résistera en 2017. Et je dis bien résistera, ce n'est pas la gauche qui vaincra. À mon avis, c'est une extrême gauche, une gauche radicale plutôt, qui va essayer de dépasser le PS comme force hégémonique dans l'élection présidentielle de 2017. Mais nous savons tous que si rien ne change, aucune gauche aura l'accès au palais de l'Élysée.
Richard Verly.
Oui, quand même rappeler deux éléments, parce que dans une crise, il y a toujours différents facteurs. Premier élément, le calendrier. Le choix qu'a fait le gouvernement de mettre sur la table cette réforme sociale à la fin du quinquennat, à un an de la prochaine élection présidentielle, c'était un choix très risqué. Parce qu'évidemment, le gouvernement est en position de faiblesse, surtout si François Hollande envisage vraiment de se représenter. Donc déjà, on peut questionner le calendrier. La deuxième chose, quand même, ne pas oublier que la CGT n'est pas le seul représentant du paysage syndical français. Il y a d'autres syndicats, et je pense à la CFDT, qui a accepté de jouer le jeu de la négociation. Donc la CGT est vraiment dans une logique qui lui est propre, elle a un leadership à défendre, et je pense qu'il ne faut pas exclure cet aspect-là de l'analyse. On est dans un rapport de force non seulement au sein de la gauche, mais au sein du monde syndical français.
Est-ce qu'on peut élargir ça à une crise de la société française, Aymeric Demir?
Je veux dire ça, à mon avis, l'écrasante majorité des Français, à mon avis, ils sont d'accord sur la nécessité des réformes, parce que les Français s'en inquiètent, il y a des problèmes, et regardent autour d'autres pays, vers l'Allemagne par exemple, donc c'est quand même le pays voisin, on compare très très souvent l'Allemagne avec la situation en Allemagne avec la France, et il faut rappeler que Gerhard Schröder, le leader social-démocrate de cette époque, c'était en 2003, il avait imposé ses réformes, la réforme de Hartz, qui était très très impopulaire, mais qui est en fait au fond les clés de la réussite de l'économie allemande ces 10 dernières années.
Peut-être que François Hollande se prend pour un nouveau Gerhard Schröder aujourd'hui.
Mais le problème ici en France, c'est que il y a une question de la légitimité de leadership, le cas de Hollande, donc on l'a évoqué, donc je ne vais pas répéter, c'est les questions de calendrier, c'est les questions aussi qui est autour d'une gauche divisée, mais aussi il y a cette différence en France que j'ai remarqué depuis que je suis venu en France il y a 10 ans, les gens en France pensent que l'emploi, en fait, est un droit fondamental, et c'est presque constitutionnel, et que la facilité, flexibilité autour de l'emploi, c'est aussi une violation de ce principe. Et j'étais étonné, par exemple, de voir les jeunes à mon âge qui avaient cette espèce d'aspiration pour accrocher un CDI et acheter un appartement après. Donc, c'est une particularité française, ça, il faut le voir. C'est aussi une source de problèmes, donc il faut vraiment un travail de dialogue très très nécessaire à faire, et il y a ce manque de confiance entre les élites politiques et les classes populaires qui empêche en fait ce dialogue, et qui est à mon avis à l'origine de cette crise.
Eva Barletto.
Le problème, c'est que moi, par exemple, je viens d'un pays où on n'a encore pas bien fixé cette relation entre flexibilité et occupation. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que, par exemple, la réforme en Italie a augmenté l'occupation, mais à court terme. C'est-à-dire, déjà, il y avait des allègements fiscaux qui facilitaient l'emploi, mais on n'a encore je veux dire, je vois que les Français privilègent la qualité de l'emploi à la quantité. Et on se demande en Italie si ce discours, c'est un discours juste, qui on pourrait, je veux dire, la France reste pratiquement l'unique mur de défense contre cette flexibilité à tout prix qui cache bien de précarité et qui, on va dire, je dirais pas les mots condamne, mais qui hypothèque le futur des générations entières. Donc, puisqu'on a un peu d'avance sur cette réforme du travail, on voit les résultats, on voit les chiffres, alors on se demande si vraiment ça pourrait être efficace à long terme. C'est ça la grande question.
Et vous diriez que les Français auraient intérêt justement à s'intéresser peut-être davantage à ce qui se passe et ce qui a été mis en œuvre en Italie?
Exactement, mais les regarder de plus près, parce que je vois que l'image de Renzi est encore... il y a encore beaucoup de gens, des analystes qui tissent les louanges, mais quand on voit de près... les résultats, on voit qu'est-ce qui se passe en 2016. On voit que sans les allègements fiscaux, après, on compare deux marchés de travail qui sont complètement différents. Un marché, c'est l'italien où il y avait beaucoup de travail au noir et où on était, disons, prêt à tout, même à la flexibilité majeure pour avoir des contrats, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient tout simplement pas de contrat et en quantité nettement majeure par rapport à la France. C'est une société vieillissante. C'est-à-dire là, quand on parle de chômage qui baisse, il faut aussi calculer tous les gens qui partent à la retraite qui sont nettement supérieurs. C'est un calcul sur la société qu'il faut faire, que les analystes font et qu'on voit que donc les données sont légèrement faussées par rapport à ce qui sont les résultats de Renzi qui sont affichés avec tant d'enthousiasme. En fait, ce n'est pas exactement comme ça. C'est-à-dire, les résultats, il faut les calculer sur la réalité de la société italienne et ce n'est pas, je veux dire, le fait qu'il y a plus d'emplois sur des CDI où on peut licencier très vite donne un marché qui est trop réactif. C'est-à-dire qui est pratiquement hystérique, c'est-à-dire avec des pointes qui est trop sensible au mouvement de marché et qui donc c'est pas forcément positif pour l'économie en sens plus global.
Alors c'est parce que vous dites que Matteo Renzi bénéficie encore aujourd'hui d'une image extrêmement positive en France. Il y a un autre leader alors, qui est arrivé au pouvoir un petit peu plus récemment, mais c'est Justin Trudeau au Canada, qui a cette image justement lors du réformateur
possible, oui,
possible, apaisé, oui, pour une société. Voilà, composite et qui fonctionne et qui avance. Est-ce que ça signifie ça que nous aussi du côté de en France on a une image peut-être un petit peu déformée de ce que peut être la société canadienne, et comment est-ce que vous voyez les choses, vous, Sylvain Desjardins?
Bon, ben, d'une part, il faut quand même dire que le Canada c'est une fédération et qu'il y a des juridictions là que c'est un peu compliqué, mais Premier ministre Trudeau a peu à faire dans les questions de loi du travail parce que c'est des juridictions provinciales. Alors, par exemple, moi je peux parler mieux du Québec qu'ailleurs au Canada, mais pour dire quand même qu'il y a en particulier au Québec un taux de syndicalisation qui est très élevé par rapport au reste du Canada, par rapport au reste du continent, et pourtant il y a une série de secteurs d'emploi, les biotechnologies qui sont très fortes chez nous, les multimédias, création aussi de jeux, etc., bon, et d'outils internet. Ce sont des secteurs qui sont nouveaux et qui demandent une flexibilité total, où le taux de syndicalisation est à peu près nul, ce qui est assez étonnant, parce que dans l'ensemble de la société, comme je vous disais, c'est beaucoup plus élevé.
Alors, ça se fait dans la douceur, ça?
Ben, ça s'est fait relativement bien, je dirais, pour une raison, c'est que c'est des secteurs nouveaux. Les jeunes qui sortent des universités, qui veulent intégrer ces secteurs, savent à l'avance que c'est ce type de marché du travail dans lequel ils vont devoir s'insérer. Ce qui n'est pas du tout le cas de ceux qui se dirigent vers une carrière dans la fonction publique ou dans le bâtiment, par exemple, des secteurs qui sont cadenassés ou enfin qui sont très fortement représentés par les entités syndicales. Ce qui fait en sorte qu'il y a des chiffres qui sont un peu trompeurs, et qui laisse croire qu'il y a cette pensée presque majoritaire pro-syndicale, représentation. Dans les faits, il y a une énorme flexibilité qui est en train de se dessiner. Et ce qui est étrange, c'est justement parce que vous me posiez la question tout à l'heure sur les manifestations, il n'y a pas de mouvement social derrière ça, bien que les gens soient conscients qu'ils sont en train de perdre des droits. Ces fameux accords de branche là, qui sont au cœur de cette réforme qui est présentée, ça n'existe pas chez nous. Et pourtant, les gens ne le réclament pas. Donc, la perception, c'est que, en effet, si on transpose dans le contexte français, on se dit, mais est-ce que les Français sont en train de jouer le rôle des derniers Gaulois, de ceux qui vont défendre une guerre qu'ils vont devoir perdre. Parce que on parle des pays, on parle de l'Italie, on peut parler de l'Allemagne, c'est là que se pose la vraie concurrence au fond. Et eux, ils ont développé, c'est M. Schröder, donc le socialiste, qui l'a fait il y a longtemps, mais toute cette flexibilité avec même ce qu'on appelle les mini-jobs, les mini-emplois qui au fond représentent une force du travail qui est très, très, très précaire, qui est mal perçu là-bas, mais qui leur donne des scores incroyables sur le plan compétitif.
Richard Verhaerly, au-delà de la proximité géographique que peut avoir la Suisse avec la France, mais est-ce que ce qui se passe aujourd'hui justement en France, ce climat social, est observé de manière très, très attentive par les Suisses, parce que on considère aussi que ça peut avoir un impact sur le climat suisse?
Il est évidemment observé de très près ce changement. Ces fractures françaises, elles sont observées de très près en Suisse pour plusieurs raisons. D'abord parce que notamment en Suisse romande, en Suisse francophone, il y a énormément de liens avec la France, des liens personnels, des liens économiques, des liens politiques, puisqu'il y a plusieurs cantons suisses qui sont frontaliers de la France. Il ne faut pas oublier non plus que vit en Suisse la plus importante communauté française à l'étranger, plus de 160 000 personnes qui vivent et travaillent en Suisse. Donc il y a des liens très étroits. Et là, je voudrais dire différentes choses par rapport à ce que je viens d'entendre. D'abord, ne jamais oublier, et c'est pour ça que nous avons intitulé notre dossier « La France qui craque », que ces craquements peuvent être soit très problématiques, socialement parlant, mais il y a d'autres craquements en France qui sont positifs. On voit aussi que le carcan français commence un petit à petit à éclater, que les start-up sont très vigoureuses, qu'un univers français est en train de changer. Donc ce pays n'est absolument pas désespérant. Au contraire, il reste très prometteur. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est, j'en reviens toujours à ce combat politique, c'est pourquoi en France, on a tellement peur de donner la prime aux accords d'entreprise. Après tout, les salariés sont dans les entreprises. Il y a une réalité aujourd'hui, on le sait bien, de l'entreprise par rapport au marché. Et je trouve que sans doute l'économie française gagnerait plus à responsabiliser salariés et patrons dans les entreprises plutôt qu'à déléguer le pouvoir des négociations à des syndicats dont on sait que la représentativité est extrêmement faible.
Bah, sans doute que c'est parce qu'il y a aussi une culture du conflit qui est importante en France dans les relations du travail et que la culture de compromis existe beaucoup moins en France.
Alors un mot là-dessus, c'est très très clair. Et moi, j'ai personnellement fait plusieurs entretiens pour le dossier qu'on a publié la semaine dernière et tous les interlocuteurs à qui vous posez la question déplorent le fait qu'aujourd'hui encore en France, on continue de considérer le rapport de force comme la manière de négocier. En fait, la négociation n'existe pas. Au moment où les acteurs sont autour de la table à Matignon, ils préparent déjà le deuxième round qui sera le round des manifestations dans la rue.
Et on en a eu une illustration d'ailleurs aujourd'hui avec les propos de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF.
Absolument.
Contre les syndicats, voilà, avec des qualificatifs de terroristes notamment à un moment donné. André Netto.
Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on parle assez peu en France de ces nouveaux esprits dont on a parlé là, tout à l'heure. C'est quelque chose de nouveau en France, c'est l'adhésion petit à petit à la technologie, à l'idée de l'entrepreneuriat, à French Tech, cette adhésion, si vous voulez, à la globalisation. Je dis bien la globalisation et pas la mondialisation. C'est mon intention de marquer une différence. La France avait une vision de la globalisation qui n'y est plus. À mon avis, c'est déjà passé cet angélisme qu'on pourrait avoir une mondialisation différente, plus égalitaire, etc., etc. Non, la globalisation est là. La France veut ou pas s'adapter. Et à mon avis, c'est ça qui se passe dans la société française. Et c'est là que je trouve que la crise est plutôt sociale et pas politique. Elle est aussi politique, elle a de répercussions politiques, mais c'est une adaptation de la société française au nouveau monde, à un monde plus globalisé et forcément plus libéral. Si on veut ou pas, c'est une autre chose, mais c'est forcément plus globalisé. Et je pense qu'il y a quelque chose qui craque, notamment dans la société française, que c'est il y a une minorité nationaliste de droite qui vote et qui adhère de plus en plus au Front National. Et il y a une minorité de gauche très résistantes à la globalisation aussi. Ce sont les extrêmes qui résistent au changement de la France.
Mais est-ce que cette adaptation au changement, par exemple, vous essayez de la restituer dans les articles que vous pouvez faire pour votre journal et pour vos lecteurs brésiliens? Est-ce que c'est de cette France-là, par exemple, que vous parlez? Ou bien, et peut-être que vous avez aussi des commandes un peu précises, j'imagine que c'est le cas d'ailleurs pour tous, de dire, bah voilà, ça serait peut-être bien de... Enfin, bon, quand j'ai lu un certain nombre d'articles là, pour préparer l'émission, ce n'était pas forcément vos organes de presse, mais il était question de guérilla, de combat, de bagarre. Enfin, on avait l'impression que la France était un peu à feu et à sang.
Je pense qu'on est en train de découvrir cette nouvelle France et que nos articles, notamment les miens, ils reflètent un peu le changement, mais sans avoir la clarté du changement. En fait, on parle beaucoup de la flexibilisation du marché du travail, on parle de la French Tech, on parle de beaucoup de sujets qui sont latéraux, disons, du changement, mais on vient de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans la société française. Je pense que là, la traduction commence à être plus claire. Le Parti Socialiste, qui était un parti socialiste à un moment donné, un parti social-démocrate à un autre moment. Aujourd'hui, c'est un parti social-libéral. Et il suit, qu'on veuille ou pas, il suit un peu le virage au centre et à droite de la société française. Et c'est ça que moi, en tout cas, j'essaie de traduire un peu dans mes articles.
Eh bien, Damir, est-ce que vous arrivez à faire des parallèles entre ce qui bouge, ce qui change dans la société turque et la société française? En plus, bon, avec votre journal Zaman, c'est un journal franco-turc. Oui. Donc forcément, les parallèles, vous êtes presque contraints d'y aller. Comment est-ce que vous...
C'est vrai que surtout la nuit debout me rappelle, il y a des parallèles en fait, ce qui s'est passé à Istanbul en 2013, en juin 2013, sur la place Taksim, il y a eu des manifestations qui étaient au début un petit manifestation écologiste et qui a gagné une ampleur inédite en Turquie parce que les Turcs, ils n'ont pas habitué à des grèves, à des manifestations, nous n'avons pas cette culture. Donc, qui représentait en fait un ras-le-bol généralisé contre le gouvernement, mais aussi contre toutes sortes de modalités de l'État, etc. Et donc, par cet aspect, il y a vraiment de l'assemblance. Après, ce qui se passe aujourd'hui, on nous suit aussi passionnément en Turquie. Et par exemple, notre président, il a évoqué aussi la répression policière. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a parlé de la répression policière en France.
Pour dire quoi? Pour dire finalement, c'est pas si pire que ça chez nous?
Voilà, c'était une simple récupération politique par M. Erdogan. Mais ce qui se passe, c'est on pourrait croire que les Français sont tout le temps en grève. On a ces images des pneus qui brûlent ou des gens dans des rues, des scènes de guerre dans les télés turques, mais aussi dans les télés. Et mes amis même, ils m'appellent pour demander ça va, tout va bien, et faites attention, etc. Donc, mais il est assez évident aujourd'hui que la grève en France, c'est un moyen. C'est souvent chorégraphié en fait entre le gouvernement et les syndicats. C'est un moyen de négociation et qui peut ça ne reflète pas vraiment la situation globale en France. Donc, ce que je voulais dire, en fait, par rapport à la Turquie, certes, surtout les mouvements de gauche, on suit de tout près, en fait, ce qui se passe actuellement en France, et on est passionné, mais par rapport, il n'y a que le nuit debout, en fait, qui reflète, qui rassemble un peu ce qui se passe actuellement en Turquie.
Sylvain Desjardins, quand on est correspondant à Paris de Radio-Canada, est-ce qu'il faut régulièrement appeler sa famille pour les rassurer, pour leur dire voilà, tout va bien? Cela dit, alors c'est vrai qu'on parle du climat social, oui. Mais il y a eu aussi une année extrêmement lourde. Absolument. En 2015 avec les attentats, où on a peut-être cru un peu trop vite que la société française allait totalement se ressouder face justement à cette forte adversité. Et puis bon, on voyait bien qu'aujourd'hui, c'est un petit peu oublié d'ailleurs, cet état de grâce.
C'est vrai et c'est dommage parce que c'est vraiment une impression très très forte moi que j'ai eue. En fait, c'est une excellente question que vous me posez parce que ça m'interpelle beaucoup. Je suis ici depuis 2 ans. J'ai l'impression que depuis que je suis ici, la France va très très mal et que c'est pire qu'avant quoi. Donc on a une couverture effrénée de tout ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Et les gens, en effet, sont... Bon, vous savez qu'au Québec, au Canada, les gens sont très, mais très intéressés à ce qui se passe en France. Il y a des choses qui me semblent, moi, trop franco-françaises, parfois, qui qui ne méritent pas une couverture au Canada, et pourtant on nous le demande. Et oui, en effet.
Par exemple, ça peut être quoi?
Ben, ça peut être justement tout, par exemple, tout ce qui s'est passé dernièrement avec le prix de l'essence à la pompe, et puis les stations qui ferment, combien ouvrent, combien de raffineries sont fermées, etc. Moi, personnellement, je trouvais ça un peu nul, mais les gens nous le demandaient, donc il fallait aller dans ce détail, parce que on suit de près ce qui se passe en France. Et oui, bien sûr, on nous a souvent posé la question, mais quel est l'état d'esprit? Comment se vit la France aujourd'hui, étant donné bon, tous ces attentats et cette espèce de peur? Et est-ce qu'il y a justement un nouvel esprit? Et là, on est obligé de constater et de dire qu'en effet, malgré tout ce qu'on avait vu, cette espèce de montée de solidarité, que là, on a une image qui est radicalement différente et que ce n'est plus de cette France-là qu'on va parler. Et ça nous semble un peu curieux, presque difficile à qualifier, comme si c'était quelque chose de ringard, mais qu'il ne faut pas le dire, quoi.
Vous êtes d'accord avec ça, Eva Morletto?
Oui, c'est aussi curieux de considérer comme justement l'époque des attentats, c'était l'unique moment où le président Hollande montait dans les sondages, c'est-à-dire parce qu'il y avait cet esprit de solidarité, parce que lui s'était comporté de manière très digne après les attentats. Et après, il y avait cette sorte de solidarité qui après c'est complètement effiloché au fil de temps avec les réformes qui ont suivi. En retournant vite fait sur la réforme du travail, en faisant toujours les comparatifs avec l'Italie. Je voulais juste dire, par rapport à ce qu'avait dit mon collègue canadien, qui avait évoqué les mini-jobs en Allemagne, qui sûrement redonnent la compétitivité. Justement, la crainte de l'Italie, c'est de voir comme ces accords qui sont faits qu'à l'intérieur de l'entreprise. En Italie, on a encore fait moins, c'est-à-dire la El Khomri pousse encore plus loin, c'est-à-dire parce que quand même, Renzi, avec sa réforme, reste le chef d'orchestre sur les droits du travail, malgré l'effacement de l'article 18 sur la réintégration des gens qui ont été licenciés illégitimement. Mais malgré tout, ça reste le chef d'orchestre sur les droits du travail, alors qu'ici, on délègue avec cette nouvelle loi complètement les entreprises à négocier avec les travailleurs, ce qui est, malgré le fait, bien sûr, c'est pas criminalisé ça, mais ça reste quand même un chantage fait par entre salariés et employeurs, ce qui favorisera sûrement la délocalisation, c'est-à-dire on imposera aux travailleurs les mêmes conditions qui sont imposées dans des pays, même au sein de l'Union européenne, où les conditions de travail des travailleurs sont moins aisées par rapport à nous. Donc c'est aussi ça qui inquiète.
Richard Verli.
Oui, je crois que les fractures qui apparaissent sur le marché du travail et qui viennent d'être décrites sont très très justes. C'est vrai que il y a une précarité croissante dans le monde du travail. En même temps, c'est une situation à laquelle tous les pays européens doivent faire face, pas seulement la France. Moi, je suis frappé surtout par une chose, c'est l'absence de vraie volonté pédagogique. Le président François Hollande a évidemment pris la parole très solennellement au moment des attentats. Pourquoi il ne fait pas le même effort pédagogique sur la loi travail? Si véritablement il pense, et c'est ce qu'il dit, il dit qu'il le pense et que c'est essentiel pour la France. Eh bien, si c'est le cas, pourquoi solennellement n'intervient-il pas pour expliquer aux Français véritablement quel est l'esprit de cette réforme et ce qu'elle va apporter? Et moi, je constate que beaucoup de gens sont angoissés, pas tant par la précarité croissante qu'ils savent quelque part inéluctable, parce qu'ils voient bien autour d'eux, ils savent que la réalité c'est celle-là. Ils sont angoissés parce qu'on ne leur explique pas où on veut aller et pourquoi on y va.
Tout à fait d'accord.
Et là, il y a un vrai problème de déficit en France aujourd'hui.
Est-ce que ce que vous allez entendre peut faire office d'exercice de pédagogie ?
Oui, ça va mieux. Il y a plus de croissance, il y a moins de déficit. Il y a moins d'impôts, il y a plus de compétitivité, c'est-à-dire de capacité pour produire, il y a plus de marge pour les entreprises, plus de pouvoir d'achat pour les salariés.
Vous dites que ça va bien, que ça
non,
va mieux.
Non, je dis que ça
si
va mieux.
Entend.
C'est pas pareil.
Voilà,
mais ça, c'est
Hollande,
pas de la pédagogie.
C'était le 14 avril 2016.
Ça, c'est pas de la pédagogie, c'est de la méthode Coué. Et personne n'y croit, même s'il y a sans doute une part de vrai. Mais c'est pas de la pédagogie, c'est pas de l'explication telle qu'il la faudrait dans des moments aussi dramatiques.
Pour autant, on peut pas dire que la France va un peu mieux aujourd'hui, André Ineto?
Je pense que le discours d'Hollande, ça relève du marketing politique. Il sait un peu ce que la population, l'opinion publique a marre à ces moments. On parle beaucoup dans l'environnement politique, on parle dans les partis politiques, on a des discours qui sont prêts, qui sont calculés et qui sont ancrés dans des sondages d'opinion. Alors, on a marre, on veut qu'un leader politique parle ce qu'il pense. Et c'est ça que m'étonne dans le discours politique d'un homme comme François Hollande, qui est quand même quelqu'un d'intelligent. Mais bon, je pense que c'est la méthode Coué. Et ceci dit, je pense que étonnamment, ça va un petit peu mieux.
Et est-ce que c'est un avis que d'autres pourraient partager, sachant qu'il nous reste 20 secondes? Ouf. Allez, Sylvain Desjardins.
En deux mots, je dirais que oui, c'est surtout au ministre du Travail, à la ministre du Travail et au premier ministre de faire le boulot. Peut-être que maintenant, c'est le président qui devra le faire et répéter ce message, mais c'est pas très convaincant de dire que ça va mieux sans avoir vraiment une démonstration complète à faire, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Et en tout cas, vous écoutez ce soir, c'est vrai qu'il y a quelques arguments à opposer au président de la République quand il dit que ça va mieux. Merci en tout cas infiniment à tous les cinq d'avoir participé à cette discussion. Eva Morletto, Emre Demi, Richard Verly, j'en profite également pour du coup remercier nos camarades de France Bleu à Tours. Merci à Sylvain Desjardins et à Andrei Netto. Émission très internationale ce soir que vous pouvez réécouter comme chaque jour sur franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Vous pouvez télécharger l'émission, nous adresser vos commentaires, nous écrire, faire plein de choses sur ce site. Du Grain à Moudre, l'équipe. C'est Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer, Hugo Florent. Émission réalisée par Anne Comidac avec à la prise de son Jean-Guilain Meige. Demain, comment parler d'une info qu'on n'a pas? Ce sera la question que nous poserons à partir de 18h20.